Baudelaire, curiosité esthétique, morale du joujou. Il y a bien des années, combien, je n'en sais rien, cela remonte au temps nébuleux de la première enfance, je fus emmené par ma mère en visite chez une dame Pankouk. Était-ce la mère, la femme, la belle-sœur du Pankouk actuel? Je l'ignore. Je me souviens que c'était dans un hôtel très calme, un de ces hôtels où l'herbe verdit les coins de la cour, dans une rue silencieuse, la rue des Poitevins. Cette maison passait pour très hospitalière, et à de certains jours, elle devenait lumineuse et bruyante. J'ai beaucoup entendu parler d'un bal masqué où M. Alexandre Dumas, qu'on appelait alors le jeune auteur d'Henri III, produisit un grand effet avec Mlle Elisa Mercœur à son bras, déguisé en page. Je me rappelle très distinctement que cette dame était habillée de velours et de fourrure. Au bout de quelque temps, elle dit « Ah, voici un petit garçon à qui je veux donner quelque chose afin qu'il se souvienne de moi. » Elle me prit par la main et nous traversâmes plusieurs pièces, puis elle ouvrit la porte d'une chambre où s'offrait un spectacle extraordinaire et vraiment féerique. Les murs ne se voyaient pas tellement ils étaient revêtus de joujoux. Le plafond disparaissait sous une floraison de joujoux qui pendaient comme des stalactites merveilleuses. Le plancher offrait à peine un étroit sentier où poser les pieds. Il y avait un monde de jouets de toute espèce, depuis les plus chers jusqu'aux plus modestes, depuis les plus simples jusqu'aux plus compliqués. « Voici, dit-elle, le trésor des enfants. J'ai un petit budget qui leur est consacré, et quand un gentil petit garçon vient me voir, je l'amène ici, afin qu'il emporte un souvenir de moi. Choisissez !» Avec cette admirable et lumineuse promptitude qui caractérise les enfants, chez qui le désir, la délibération et l'action ne font pour ainsi dire qu'une seule faculté, par laquelle il se distingue des hommes dégénérés, en qui au contraire la délibération mange presque tout le temps, je m'emparais immédiatement du plus beau, du plus cher, du plus voyant, du plus frais, du plus bizarre des joujoux. Ma mère se récria sur mon indiscrétion et s'opposa obstinément à ce que je l'emportasse. Elle voulait que je me contentasse d'un objet infiniment médiocre. Mais je ne pouvais y consentir, et pour tout accorder, je me résignais à un juste milieu. Il m'a souvent pris la fantaisie de connaître tous les gentils petits garçons qui, ayant actuellement traversé une bonne partie de la cruelle vie, manient depuis longtemps autre chose que des joujoux, et dont l'insouciante enfance a puisé autrefois un souvenir dans le trésor de Madame Pankouk. Cette aventure est cause que je ne puis m'arrêter devant un magasin de jouets et promener mes yeux dans l'inextricable fouillis de leurs formes bizarres et de leurs couleurs disparates, sans penser à la dame habillée de velours et de fourrure, qui m'apparaît comme la fée du joujou. J'ai gardé, d'ailleurs, une affection durable et une admiration raisonnée pour cette statuaire singulière, qui par la propreté lustrée, l'éclat aveuglant des couleurs, la violence dans le geste et la décision dans le galbe, représente si bien les idées de l'enfance sur la beauté. Il y a dans un grand magasin de joujoux une gaieté extraordinaire qui le rend préférable à un bel appartement bourgeois. Toute la vie en miniature ne s'y trouve-t-elle pas, et beaucoup plus colorée, nettoyée et luisante que la vie réelle? On y voit des jardins, des théâtres, de belles toilettes, des yeux purs comme le diamant, des joues allumées par le phare, des dentelles charmantes, des voitures, des écuries, des étables, des ivrognes, des charlatans, des banquiers, des comédiens, des polichinelles qui ressemblent à des feux d'artifice, des cuisines et des armées entières, bien disciplinées, avec de la cavalerie et de l'artillerie. Tous les enfants parlent à leurs joujoux. Les joujoux deviennent acteurs dans le grand drame de la vie, réduit par la chambre noire de leur petit cerveau. Les enfants témoignent par leur jeu de leur grande faculté d'abstraction et de leur haute puissance imaginative. Ils jouent sans joujou. Je ne veux pas parler de ces petites filles qui jouent à la madame, se rendent des visites, se présentent leurs enfants imaginaires et parlent de leur toilette. Les pauvres petites imitent leur maman, elles préludent déjà à leur immortelle puérilité future, et aucune d'elles, à coup sûr, ne deviendra ma femme. Mais la diligence, l'éternel drame de la diligence, jouer avec des chaises, la diligence chaise, les chevaux chaises, les voyageurs chaises, il n'y a que le postillon de vivant. L'attelage reste immobile et cependant il dévore avec une rapidité brûlante des espaces fictifs. Quelle simplicité de mise en scène, et n'y a-t-il pas de quoi faire rougir de son impuissante imagination ce public blasé qui exige des théâtres une perfection physique et mécanique et ne conçoit pas que les pièces de Shakespeare puissent rester belles avec un appareil d'une simplicité barbare. Et les enfants qui jouent à la guerre, non pas dans les Tuileries avec de vrais fusils et de vrais sabres, je parle de l'enfant solitaire qui gouverne et mène à lui seul au combat deux armées. Les soldats peuvent être des bouchons, des dominos, des pions, des osselets, les fortifications seront des planches, des livres, enfin, etc. Et les projectiles, des billes ou toute autre chose. Il y aura des morts, des traités de paix, des otages, des prisonniers, des impôts. J'ai remarqué chez plusieurs enfants la croyance que ce qui constituait une défaite ou une victoire à la guerre, c'était le plus ou moins grand nombre de morts. Plus tard, mêlés à la vie universelle, obligés eux-mêmes de battre pour n'être pas battus, ils sauront qu'une victoire est souvent incertaine et qu'elle n'est une vraie victoire que si elle est, pour ainsi dire, le sommet d'un plan incliné où l'armée glissera désormais avec une vitesse miraculeuse ou bien le premier terme d'une progression infiniment croissante. Cette facilité à contenter son imagination témoigne de la spiritualité de l'enfance dans ses conceptions artistiques. Le joujou est la première initiation de l'enfant à l'art, ou plutôt, c'en est pour lui la première réalisation, et l'âge mûr venu, les réalisations perfectionnées ne donneront pas à son esprit les mêmes chaleurs, ni les mêmes enthousiasmes, ni la même croyance. Et même analyser cet immense mundus enfantin, considérer le joujou barbare, le joujou primitif, où pour le fabricant le problème consistait à construire une image aussi approximative que possible, avec des éléments aussi simples, aussi peu coûteux que possible, par exemple le polichinelle plat mu par un seul fil, les forgerons qui battent l'enclume, le cheval et son cavalier en trois morceaux, quatre chevilles pour les jambes, la queue du cheval formant un sifflet, et quelquefois le cavalier portant une petite plume, ce qui est un grand luxe. C'est le joujou à 5 sous, à 2 sous, à 1 sou. Croyez-vous que ces images simples créent une moindre réalité dans l'esprit de l'enfant, que ces merveilles du jour de l'an, qui sont plutôt un hommage de la servilité parasitique à la richesse des parents qu'un cadeau à la poésie enfantine? Tel est le joujou du pauvre. Quand vous sortirez le matin, avec l'intention décidée de flâner solitairement sur les grandes routes, remplissez vos poches de ces petites inventions, et le long des cabarets, au pied des arbres, faites-en hommage aux enfants inconnus et pauvres que vous rencontrerez. Vous verrez leurs yeux s'agrandir démesurément. D'abord, ils n'oseront pas prendre. Ils douteront de leur bonheur. Puis, leurs mains happeront avidement le cadeau et ils s'enfuiront, comme font les chats qui vont manger loin de vous le morceau que vous leur avez donné, ayant appris à se défier de l'homme. C'est là certainement un grand divertissement. À propos du joujou du pauvre, j'ai vu quelque chose de plus simple encore, mais de plus triste que le joujou à un sou. C'est le joujou vivant. Sur une route, derrière la grille d'un beau jardin, au bout duquel apparaissait un joli château, se tenait un enfant beau et frais, habillé de ses vêtements de campagne pleins de coquetterie. Le luxe, l'insouciance et le spectacle habituel de la richesse rendent ces enfants-là si jolis qu'on ne les croirait pas faits de la même pâte que les enfants de la médiocrité ou de la pauvreté. À côté de lui, gisait sur l'herbe un joujou splendide, aussi frais que son maître, verni doré, avec une belle robe et couvert de plumets et de verroterie. Mais l'enfant ne s'occupait pas de son joujou. Et voici ce qu'il regardait de l'autre côté de la grille, sur la route, entre les chardons et les orties. Il y avait un autre enfant, sale, assez chétif, un de ces marmots sur lesquels la morve se fraye lentement à chemin dans la crasse et la poussière. À travers ces barreaux de fer symboliques, l'enfant pauvre montrait à l'enfant riche son joujou, que celui-ci examinait avidement, comme un objet rare et inconnu. Or, ce joujou que le petit souillon agaçait, agitait et secouait dans une boîte grillée était un rat vivant. Les parents, par économie, avaient tiré le joujou de la vie elle-même. Je crois que, généralement, les enfants agissent sur leur joujou, en d'autres termes, que leur choix est dirigé par des dispositions et des désirs, vagues, il est vrai, non pas formulés, mais très réels. Cependant, je n'affirmerai pas que le contraire n'ait pas lieu, c'est-à-dire que les joujoux n'agissent pas sur l'enfant, surtout dans le cas de prédestination littéraire ou artistique. Il ne serait pas étonnant qu'un enfant de cette sorte, à qui ses parents donneraient principalement des théâtres pour qu'il pût continuer seul le plaisir du spectacle et des marionnettes, s'accoutuma déjà à considérer le théâtre comme la forme la plus délicieuse du beau. Il est une espèce de joujou qui tente à se multiplier depuis quelque temps, et dont je n'ai à dire ni bien ni mal. Je veux parler du joujou scientifique. Le principal défaut de ces joujoux est d'être chers. Mais ils peuvent amuser longtemps et développer dans le cerveau de l'enfant le goût des effets merveilleux et surprenants. Le stéréoscope, qui donne en rond de bosse une image plane, est de ce nombre. Il date maintenant de quelques années. Le phélakistiscope, plus ancien et moins connu. Supposez un mouvement quelconque, par exemple un exercice de danseur ou de jongleur, divisé et décomposé en un certain nombre de mouvements. Supposez que chacun de ces mouvements, au nombre de 20, si vous voulez, soit représenté par une figure entière du jongleur ou du danseur et qu'ils soient tous dessinés autour d'un cercle de carton. Ajustez ce cercle ainsi qu'un autre cercle troué à distance égale de 20 petites fenêtres, un pivot au bout d'un manche que vous tenez comme on tient un écran devant le feu. Les 20 petites figures, représentant le mouvement décomposé d'une seule figure, se reflètent dans une glace située en face de vous. Appliquez votre œil à la hauteur des petites fenêtres et faites tourner rapidement les cercles. La rapidité de la rotation transforme les 20 ouvertures en une seule circulaire, à travers laquelle vous voyez se réfléchir dans la glace 20 figures dansantes exactement semblables et exécutant les mêmes mouvements avec une précision fantastique. Chaque petite figure a bénéficié des 19 autres. Sur ce cercle, elle tourne et sa rapidité la rend invisible. Dans la glace, vue à travers la fenêtre tournante, elle est immobile, exécutant en place tous les mouvements distribués entre les 20 figures. Le nombre des tableaux qu'on peut créer ainsi est infini. Je voudrais bien dire quelques mots des mœurs des enfants relativement à leurs joujoux et des idées des parents dans cette émouvante question. Il y a des parents qui n'en veulent jamais donner. Ce sont des personnes graves, excessivement graves, qui n'ont pas étudié la nature et qui rendent généralement malheureux tous les gens qui les entourent. Je ne sais pourquoi, je me figure qu'elle pue le protestantisme. Elles ne connaissent pas et ne permettent pas les moyens poétiques de passer le temps. Ce sont les mêmes gens qui donneraient volontiers un franc à un pauvre, à condition qu'il s'étouffât avec du pain, et qui lui refuseront toujours 2 sous pour se désaltérer au cabaret. Quand je pense à une certaine classe, de personne ultra raisonnable et antipoétique par qui j'ai tant souffert, je sens toujours la haine pincer et agiter mes nerfs. Il y a d'autres parents qui considèrent les joujoux comme des objets d'adoration muette. Il y a des habits qu'il est au moins permis de mettre le dimanche, mais les joujoux doivent se ménager bien autrement. Aussi à peine l'ami de la maison a-t-il déposé son offrande dans le tablier de l'enfant, que la mère, féroce et économe, se précipite dessus, le met dans une armoire et dit « C'est trop beau pour ton âge, tu t'en serviras quand tu seras grand. » Un de mes amis m'avoue qu'il n'avait jamais pu jouir de ses joujoux. « Et quand je suis devenu grand, ajoutait-il, j'avais autre chose à faire. » Du reste, il y a des enfants qui font de même la même chose. Ils n'usent pas de leurs joujoux. Ils les économisent, ils les mettent en ordre, en font des bibliothèques et des musées, et les montrent de temps à autre à leurs petits amis en les priant de ne pas toucher. Je me défierais volontiers de ces enfants hommes. La plupart des marmots veulent surtout voir l'âme, les uns au bout de quelque temps d'exercice, les autres tout de suite. C'est la plus ou moins rapide invasion de ce désir qui fait la plus ou moins grande longévité du joujou. Je ne me sens pas le courage de blâmer cette manie enfantine. C'est une première tendance métaphysique. Quand ce désir s'est fiché dans la moelle cérébrale de l'enfant, il remplit ses doigts et ses ongles d'une agilité et d'une force singulière. L'enfant tourne, retourne son joujou, il le gratte, le secoue, le cogne contre les murs, le jette par terre. De temps en temps, il lui fait recommencer ses mouvements mécaniques, quelquefois en sens inverse. La vie merveilleuse s'arrête. L'enfant, comme le peuple qui assiège les Tuileries, fait un suprême effort, enfin, il l'entr'ouvre, il est le plus fort. Mais où est l'âme? C'est ici que commencent l'hébétement et la tristesse. Ah, il y en a d'autres qui cassent tout de suite le joujou à peine mis dans leurs mains, à peine examiné. Et quant à cela, j'avoue que j'ignore le sentiment mystérieux qui les fait agir. Sont-ils pris d'une colère superstitieuse contre ces menus objets qui imitent l'humanité, ou bien leur font-ils subir une espèce d'épreuve maçonnique avant de les introduire dans la vie enfantine? Puzzling question.